Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Dans Espérance aujourd'hui, nous apportons un regard biblique sur des sujets d'actualité.
Aujourd'hui, nous allons terminer notre série de discussions abordant le thème de la paix.
Nous aborderons la question suivante. Que réserve l'avenir? Étienne est encore là pour orienter nos pensées. Bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Étienne, beaucoup aspirent à la paix. Ils voudraient vivre dans un monde en paix. Mais le rêve se réalisera-t-il un jour? La Bible nous apprend-elle quelque chose à ce sujet?
Le Nouveau Testament parle de deux âges, de deux époques. L'âge présent et l'âge à venir. Ces deux âges sont séparés par le retour de notre Seigneur Jésus dans sa gloire. Alors, pour répondre brièvement à votre question « Que réserve l'avenir ?», nous pouvons dire que pour l'âge présent, l'histoire suivra son cours malheureux et les conflits à tout niveau ne cesseront pas. Par contre, quand le Seigneur Jésus reviendra, il mettra fin à toutes ces tensions, ces désaccords, ces guerres et il instaurera sa paix parfaite. La paix entre Dieu et les hommes, la paix dans les relations entre les hommes et la paix entre l'homme et l'univers.
Étienne, pouvez-vous indiquer des textes bibliques expliquant cela?
Prenons par exemple Luc chapitre 21 verset 9 où Jésus déclare « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord. Mais la fin du monde ne viendra pas aussitôt après. On verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. » Beaucoup de disciples espéraient que Jésus allait instaurer l'âge à venir tout de suite. Mais Jésus voulait les préparer à une période d'attente. Il reviendra, oui, mais pas immédiatement. Nous nous trouvons encore dans cette période d'attente. Et Jésus nous enseigne que cette période sera marquée par des tribulations et des épreuves de tout genre, y compris des conflits.
Étienne, la dernière fois, nous avons parlé du chrétien en tant que bâtisseur de paix. Et vous nous avez encouragé à œuvrer pour la paix. Mais si, selon Jésus, dans cet âge présent, la paix nous échappe toujours parce qu'elle reste illusoire, ne risque-t-on pas de baisser les bras devant notre désir de chercher à promouvoir cette paix?
Pensez aux médecins. Ils passent leur vie à soigner les malades. Or, chaque fois qu'ils parviennent à guérir une personne, ils savent qu'elle reviendra un jour pour une autre maladie. Ils savent aussi qu'un jour, chacun de leurs patients mourra. Et personne ne dit pour autant qu'il ne vaut pas la peine d'être médecin. Nous vivons dans un monde constamment avec des problèmes, mais nous devons chercher toutefois à l'améliorer. Lorsque nous parvenons à réconcilier deux personnes, nous accomplissons un bien. Le monde devient un endroit meilleur, même si, ailleurs, d'autres disputes se poursuivent. Lorsque les églises contribuent à établir la paix, que ce soit à l'échelle locale ou internationale, elles accomplissent une œuvre qui apporte un bien à tous ceux qui souffraient auparavant d'une situation difficile. Il est malheureusement vrai que d'autres conflits éclateront ailleurs. Sachez que la paix en cet âge présent est fragile. Une raison de plus d'en prendre soin.
Merci, Étienne.
Je voudrais poursuivre et ajouter ceci. Je peux très bien comprendre que les bâtisseurs de paix se découragent parfois. Leur tâche est difficile. Ils doivent fortifier leur espérance en gardant en vue la pensée qu'un jour tout changera. De même, les paroles de Jésus trouvées dans Matthieu chapitre 5, verset 9, doivent être un réconfort et une motivation. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils.
Dans ce monde donc, nous devons lutter pour la paix. Parlez-nous maintenant de l'âge à venir.
Oui, et j'aimerais m'appuyer sur des textes écrits par le prophète Ésaïe, qui a vécu environ 600 ans avant Jésus-Christ. Lisons d'abord Ésaïe chapitre 9, versets 5 et 6. « Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice, dès à présent et pour l'éternité. »
Cet enfant promis par le prophète, cet enfant qui deviendra le Prince de la paix, s'agit-il de Jésus-Christ?
Tout à fait. Lorsque nous lisons les prophètes, ils parlent de la venue du Messie, du Roi Sauveur, comme si tout allait se passer en même temps, comme s'il n'y avait qu'un seul événement. Or, nous comprenons aujourd'hui que Jésus-Christ est venu une première fois et qu'il viendra une deuxième fois aussi, événement que nous attendons encore.
Pouvez-vous vous expliquer davantage pourquoi les prophètes parlaient-ils ainsi?
Lorsque l'on regarde de loin une chaîne de montagnes, les sommets apparaissent très proches les uns des autres. Alors que si l'on s'en approche, on s'aperçoit qu'en fait, une bonne distance les sépare. Les prophètes regardaient l'avenir de loin, et ces deux venues de Jésus se confondaient en une seule, alors que pour nous, qui vivons entre ces deux venues, nous savons qu'une bonne période d'attente les sépare.
Revenons à notre sujet, la paix. En quoi Jésus-Christ est-il le prince de la paix?
Lors de sa première venue, Jésus-Christ a rétabli la paix sur le plan le plus fondamental. Par la croix et la résurrection de Jésus-Christ, la paix avec Dieu est dorénavant possible. Nous pouvons nous réconcilier avec Dieu. Toutefois, le texte d'Ésaïe montre que Dieu établira un royaume où la paix durera à toujours. L'Ancien Testament de la Bible fut écrit en hébreu. Or, dans cette langue, le mot « shalom », dont nous avons déjà parlé au début de cette série, désigne la paix. Le prince de la paix, c'est-à-dire Jésus-Christ, selon Ésaïe, rétablira le « shalom », que représente le dessein de Dieu pour sa création. Le « shalom », rappelons-le, est un mot riche de sens. Il signifie la paix, l'harmonie, le bien-être, dans toutes ses relations possibles, entre l'homme et Dieu, entre les hommes eux-mêmes et entre les hommes et le monde naturel. Le mot « shalom » signifie la paix dans son sens le plus large. Il inclut les notions de sécurité et de bien-être, d'épanouissement et de prospérité. Il signifie aussi l'absence de tout élément qui pourrait menacer cette paix.
Cette paix que nous attendons est vraiment merveilleuse.
Effectivement.
Le prophète Ésaïe nous assure que Jésus-Christ apportera cette paix. Mais nous la décrit-il quelque part?
Cette paix évoquée par les prophètes est tellement éloignée de celle que nous pouvons vivre qu'il est quasiment impossible de la décrire avec nos mots. Ésaïe fait tout de même une tentative. À travers une très belle description, il nous donne un petit aperçu, imagé, de ce que sera ce monde où la paix régnera. Lisons Ésaïe au chapitre 11, versets 6 à 9. « Le loup vivra avec l'agneau, la panthère paîtra aux côtés du chevreau, le veau et le lionceau et le bœuf à l'engrais seront ensemble, et un petit enfant les mènera auprès. Le nourrisson s'ébattra sans danger, près du nid du cobra. Et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre du serpent. On ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. »
Est-il possible de savoir à quel point le prophète avait une vision littérale des choses, ou s'agit-il simplement d'images?
Il est difficile de le savoir. Je pense qu'il faut retenir les leçons essentielles au lieu de se pencher sur tous les petits détails. Ce qui se dégage de ce texte est surtout l'impression d'harmonie et de paix. Également une impression de sécurité, l'absence de danger, de conflit et de péché. L'apôtre Jean, en écrivant l'Apocalypse, compare l'avenir sous le règne de Christ à une citadelle prospère qui laisse toujours ses portes ouvertes, car elle n'est menacée par aucun danger. Pour le croyant qui espère le retour de Jésus-Christ, son avenir éternel est fait de paix, la paix parfaite vécue dans la présence de celui qui est nommé le Prince de paix.
Nous remercions Étienne pour sa participation tout au long de cette série qui se termine aujourd'hui.
Nous venons d'aborder le thème enrichissant de la paix et nous pouvons remarquer en tant que véritable paradoxe que ceux qui œuvrent pour la paix rencontre souvent l'opposition.
Nos méditations bibliques portent sur ce sujet. Elles se basent sur les paroles de Jésus trouvées dans Matthieu, chapitre 5, versets 10 à 12.
« Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront. » Lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Aujourd'hui, Yann nous fera part de quelques réflexions sur ces versets.
Un incident relaté dans les Actes des Apôtres m'a toujours interpellé. Les serviteurs de Dieu, Paul et Silas, avaient vécu une rude journée. Le fait d'avoir prêché le nom de Jésus auprès de gens de la ville de Philippe avait suscité une vive opposition. De force, une foule hostile les avait entraînés devant le tribunal. Là, on ordonna qu'ils fussent roués de coups, puis jetés en prison. À minuit, Paul et Silas se trouvaient enchaînés et meurtris dans l'obscurité de leur cellule. Et que faisaient-ils? Selon la Bible, ils priaient et chantaient des louanges à Dieu. Il nous arrive aussi de passer de bien rudes journées, et parfois à cause de notre foi. Que faisons-nous alors après une journée éprouvante? Trop facilement, nous pouvons nous apitoyer sur notre propre sort. Trop facilement, nous pouvons nous plaindre et être de mauvaise humeur. Nous ferions mieux de suivre l'exemple de Paul et de Silas. Nous ferions mieux de prier et de chanter des louanges à Dieu. Mais comment est-il possible de chanter dans de telles circonstances? Paul et Silas comprirent l'enseignement de Jésus donné dans les versets lus tout à l'heure. Malgré la persécution qui s'abattait sur eux, ils se réjouissaient parce qu'ils se savaient aimés de Dieu et sous sa faveur. La terreur d'être poursuivi par une foule hostile, la douleur subie par les coups de fouet et l'angoisse d'un avenir incertain n'ont pas pu les arracher de l'amour de Dieu ni ôter leur relation avec lui. À vue humaine, ils avaient tout perdu. Mais aux yeux de Dieu, ils n'avaient pas perdu l'essentiel, la chose la plus importante et ce qu'ils avaient de plus précieux. Ils n'avaient pas perdu la bénédiction de Dieu. Ils n'avaient pas perdu sa consolation ni sa présence dans leur vie. Lorsque nous ressentons la douleur de l'épreuve, il est tentant de se plaindre contre l'Éternel, de se révolter contre le Seigneur. Et nous pourrions nous éloigner ainsi de celui qui peut nous faire le plus de bien. Les épreuves font partie de ce monde mauvais et malheureux, mais nous avons cette assurance que Dieu garde en réserve un héritage merveilleux pour les siens. Quand tout va mal, nous devons nous obliger à penser à ces choses dans la prière et la louange. C'est ainsi que nous retrouverons la paix et la joie. C'est ainsi que notre espérance sera fortifié.
Merci Yann pour ce bel exemple nous montrant qu'il est possible d'avoir le cœur en paix, même dans la pire des circonstances. Nous avons beaucoup parlé de la paix durant ces dernières émissions et nous espérons que ces quelques réflexions vous aideront à vivre en paix avec Dieu et à répandre la paix dans ce monde hostile.
Sur ce, nous vous disons au revoir.
Et que Dieu vous bénisse.